Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, je vous propose de voir quel est l'impact de la pollution de l'air sur les maladies cardiovasculaires. La pollution de l'air est un enjeu majeur de santé publique car elle est responsable de 400 000 décès chaque année en Europe, 1,3 million dans le monde. Mais quand on en parle, on pense d'ailleurs plutôt aux maladies respiratoires. Pourtant, le problème principal est cardiaque. Selon l'Agence européenne de l'environnement, les maladies cardiovasculaires et les crises cardiaques sont les principales causes de décès prématurés dus à la pollution de l'air en Europe, avant justement les maladies pulmonaires et le cancer. La pollution atmosphérique, c'est-à-dire les particules en suspension ou les gaz irritants et agressifs, aggrave non seulement des problèmes cardiaques chez des malades, mais également des effets nocifs sur le système cardiovasculaire chez les personnes saines. On en parle aujourd'hui avec le professeur Daniel Thomas, cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre de la Fédération française de cardiologie. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Mbuyamba, qui est cardiologue au CHU de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et pour terminer, comme vous l'avez entendu, on parlera de l'affaire Vincent Lambert, dont la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre un avis. Professeur Daniel Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci vraiment d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour parler de cet impact de la pollution sur les maladies cardiovasculaires. Est-ce que l'espérance dans les villes, on dit qu'elle est moins élevée que dans les campagnes, est-ce que justement c'est dû à la pollution ?
Alors ça peut être dû en partie à la pollution. Encore une fois, là on va parler d'un facteur de risque cardiovasculaire qui est indéniable, que vous venez de souligner. Bien entendu, il y en a d'autres. Et il est possible qu'il y ait des biais par rapport aux autres facteurs de risque concernant les citadins. La pollution fait partie effectivement de la
baisse de l'espérance de vie.
La baisse d'espérance de vie, mais probablement qu'il n'y a pas que ça pour les citadins, fantôme.
Quelle est l'ampleur de ce problème ? C'est vrai que moi, quand on me parlait pollution de l'air, j'avais beaucoup plus tendance à penser maladie respiratoire. Et on ne pense pas aux maladies cardiaques, or c'est finalement le problème principal.
Parce qu'intuitivement, comme on respire cet air pollué et que les symptômes qui sont liés à la pollution sont essentiellement ressenti comme respiratoire, sans des difficultés à respirer, gêne respiratoire, picotement au niveau de la sphère rhino-pharyngée. Donc tout ça est donc perçu comme étant plutôt respiratoire. Et d'autre part, comme on inhale l'air et que ça va vers les poumons, les gens ont le sentiment que, et puis on l'a surtout beaucoup souligné, que c'était respiratoire, et on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que cette pollution a également des effets sur les vaisseaux et sur la coagulation. Un peu les mêmes effets d'ailleurs que ceux qui sont liés à l'intoxication par le tabac.
Justement, expliquez-nous un peu plus précisément quel est le processus qui fait que ça va jusqu'au problème cardiaque.
Alors, c'est un processus qu'on peut expliquer assez simplement. Alors, bien entendu, on ne va pas rentrer dans le détail parce que les termes seront un petit peu difficiles à comprendre. Je veux dire que le processus essentiel qui crée la toxicité de la pollution atmosphérique est du tabagisme, qui on peut mettre en parallèle, ce sont trois mécanismes. Tout d'abord, cette pollution a des effets sur la capacité de nos vaisseaux à se dilater et au contraire, justement, sous l'effet de la pollution, sous l'effet du tabac, à se contracter, donc à diminuer de calibre et donc à gêner la circulation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième effet, c'est un effet sur la coagulation, c'est-à-dire que ces phénomènes de pollution entraîne une capacité du sang à se coaguler et donc à former des caillots dans les artères et ceci peut se produire de façon extrêmement brutale, d'où les accidents cardiovasculaires comme infarctus du myocarde chez le fumeur et en particulier chez les fumeurs jeunes. C'est la seule cause d'infarctus chez les sujets jeunes, c'est le tabac et l'exposition à la fumée du tabac. Eh bien, la pollution, ça fonctionne un peu pareil. Sur la coagulation, ça crée la capacité du sang à coaguler plus facilement et donc à créer ce type d'accident aigu.
Donc à faire un bouchon en gros.
Voilà, un bouchon, c'est-à-dire que ça bouche l'artère, donc l'organe, en l'occurrence le cœur, n'est pas vascularisé dans ce territoire de l'artère qui est bouché et donc ça crée ce qu'on appelle un infarctus. Et puis le troisième mécanisme, qui est un mécanisme plus subtil et qui intervient au niveau de tous les organes avec la pollution avec le tabac, c'est l'inflammation. Les phénomènes inflammatoires, ces phénomènes inflammatoires retentissent sur le fonctionnement des vaisseaux et surtout retentissent sur ce qu'on appelle la déstabilisation des plaques d'athérosclérose. Vous voyez, ces plaques qui se forment dans les artères sous l'effet du cholestérol, de l'hypertension, du diabète, qui sont les facteurs beaucoup plus connus d'accidents cardiovasculaires.
Et qui, pareil, font des bouchons.
Et ces plaques, en fait, elles sont tout à fait tranquilles tant qu'elles n'obstruent pas totalement l'artère. Et elles peuvent, sous l'effet justement de cette pollution, se craqueler et être le point d'appel à la coagulation dont on vient de parler, et à ce moment-là de créer justement l'accident aigu. Donc ces trois mécanismes-là sont présents avec la pollution, quel que soit d'ailleurs le polluant qui est mis en cause, soit les gaz ou que ce soit les particules, créent ces phénomènes-là et donc le risque d'accident vasculaire.
Et ce qu'on comprend bien, c'est que c'est du long terme.
Alors, c'est du long terme, c'est quelque chose, effectivement, parce qu'on parle des pics de pollution, mais cette pollution, elle est présente, en fait,
permanence.
De façon assez permanente, et pas soulignée, en général, par les médias, parce que on va en parler tous les jours. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, et en particulier dans certains secteurs, comme, par exemple, à Paris, le boulevard périphérique, et les maisons qui sont alentour, les gens sont en permanence, effectivement, soumis à une relative intense pollution, qui peut avoir un effet sur la durée. Et ces effets, bon, sont un petit peu sournois parce que, comme on le disait tout à l'heure, on ne les ressent pas forcément sur le plan cardiovasculaire, et ça peut agir alors qu'on n'a rien ressenti en amont.
On a une question que j'ai trouvée très intéressante parce que je me suis posée exactement la même de Kader sur Facebook qui dit: mais comment faites-vous pour savoir qu'une maladie cardiovasculaire chez un patient est due à la pollution? Alors il faut dire en fait qu'on a cherché à vous appeler avant, en préparant cette émission, en disant: vous n'auriez pas un exemple de patient à nous donner qui pourrait faire un témoignage pour nous expliquer le lien entre les deux? Ben non, c'est pas si facile.
Alors, aucun individu peut se dire qu'il a été victime, lui, spécifiquement, pour son accident cardiovasculaire, de la pollution. Pourquoi? Tout simplement parce que cette relation entre la pollution et l'incidence sur les maladies cardiovasculaires, elle est faite à partir d'études statistiques épidémiologiques. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui arrive comme accident dans une région qui est très polluée par rapport à une région qui l'est moins, et on fait la différence, et statistiquement, si la différence est significative pour les infarctus ou pour les accidents vasculaires cérébraux, on va dire la participation de la pollution ajustée sur tous les autres facteurs de risque et a un rôle dans cet excès d'hospitalisation pour infarctus ou de décès cardiovasculaire. Donc c'est au niveau d'une population qu'on peut déterminer ça.
Mais pas d'un individu.
Au niveau de l'individu, c'est très difficile. Alors, parfois, bon, on peut imaginer que quelqu'un qui a une maladie qui le rend déjà sensible à un accident cardiovasculaire et qui fait un accident au moment d'un pic de pollution spécifiquement, on peut dire que la pollution a participé à faire déborder le vase et à faire finalement à créer l'incident. Mais on peut pas dire que la pollution à elle seule chez un individu donné est responsable d'un accident cardiovasculaire. C'est un adjuvant, c'est quelque chose qui vient en plus finalement créer l'accident.
Et est-ce qu'au moment des pics de pollution, par exemple, on constate une plus grande plus de consultations aux urgences, mais sur des problèmes cardiovasculaires, pas simplement sur des problèmes asthmatiques?
Alors, certainement, puisque les études statistiques qui montrent un excès d'accidents dans les régions qui sont les plus polluées reflètent cela. C'est-à-dire qu'il y a plus d'incidents. Donc, on peut imaginer, alors ça, faut l'étudier de façon... Alors, si, ça a été étudié. Par exemple, nos collègues de Dijon avaient étudié, il y a quelques années, les hospitalisations par infarctus en fonction des pics de pollution relevés au niveau de la région en Bourgogne et en niveau de la région spécifiquement de Dijon. Et ils avaient constaté finalement un surcroît d'hospitalisations pour infarctus dans ces phases de pollution plus importantes. Alors par contre, ce qui était amusant, c'est que lorsqu'ils avaient ajusté sur d'autres facteurs de risque, on voyait que ça ne sortait que pour les fumeurs. C'est-à-dire que dans les pics de pollution à Dijon, il y avait plus d'infarctus que dans la population des fumeurs et pas dans le reste de la population non fumeuse. Donc ça souligne ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça vient s'ajouter à des facteurs de risque déjà présents chez les individus et qui font qu'ils vont plus facilement faire l'accident à cause de la pollution, certes, mais parce qu'ils ont déjà un facteur.
Alors c'est très important ce que vous dites là, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent, bah, puisqu'il y a de la pollution, de toutes les manières j'ai un risque cardiovasculaire, allons-y, je fume, ça ne changera rien. Au contraire, ça aggrave le problème.
Exactement, ça aggrave le problème de façon tout à fait notable. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'occasion de dire que globalement, un fumeur effectivement qui craint la pollution solution, mais est dans un paradoxe. Et je crois que la première chose qu'il a l'attitude de faire, c'est d'arrêter de fumer pour justement diminuer au maximum son risque vis-à-vis cette pollution sur laquelle il a beaucoup moins, lui, de possibilités d'agir.
Le tabac est vraiment néfaste pour les maladies cardiovasculaires. Redisant un mot, c'est toujours l'occasion de le redire.
Le tabac est un des premiers facteurs de risque d'infarctus du myocarde, et en particulier chez les sujets les plus jeunes, mais également chez les sujets les plus âgés. Les infarctus de moins de 50 ans sont à 80% fumeurs. Et quand on regarde les autres facteurs de risque qu'ils pourraient avoir pour avoir fait un accident si jeune, on n'en trouve pas. On trouve dans 80% également que le tabac. Bon. Donc ces infarctus, ils sont pas rares, ces infarctus de moins de 50 ans. Ils sont même de plus en plus fréquents, et en particulier chez les jeunes femmes. Et vous savez que...
Jusqu'à maintenant, fumaient pas, mais
l'infarctus
sont mis à fumer.
A augmenté en France chez les femmes de 35 à 55 ans, et c'est la seule tranche d'âge, et uniquement chez les femmes, où l'infarctus a augmenté entre 2002 et 2008. Donc on est, et parallèlement...
Totalement donc lié au tabagisme chez les femmes.
Bien sûr, puisqu'en même temps, on a une augmentation de 7% du tabagisme chez les femmes de cet âge-là. Donc parce que c'était les générations précédentes ne fumaient pas, celles-ci ont commencé à fumer à 20 ans, et quand elles arrivent à 35 et 55 ans, là, elles font les infarctus comme les hommes. La parité est obtenue grâce au tabac.
On va continuer pendant toute cette émission à parler donc de l'impact de la pollution de l'air sur les maladies cardiovasculaires.
Priorité Santé sur RFI.
Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et du coup, nous, dans Priorité Santé, on parle de l'impact de la pollution de l'air sur les maladies cardiovasculaires. On a au téléphone Sérigné qui nous appelle de Dakar, au Sénégal. Sérigné, bonjour.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, vous avez voulu intervenir aujourd'hui.
Oui, concrètement, nous au Sénégal, nous avons travaillé sur la pollution.
Alors attendez, Sérigné, la ligne téléphonique n'est pas très bonne, alors parlez bien près du téléphone le plus fort possible pour qu'on vous entende.
Bon, concrètement au Sénégal, on a travaillé sur la pollution pour les femmes. Donc on a essayé de voir chez les femmes et les enfants qui sont positifs à la
maladie. Alors Sérigné, je suis vraiment désolée, la ligne téléphonique est vraiment trop mauvaise. Donc on va vous rappeler, parce que votre témoignage est très intéressant et important. Donc vous raccrochez, on vous rappelle, on va essayer d'avoir une ligne téléphonique qui est meilleure, parce que là, très honnêtement, on n'arrive pas à comprendre. Professeur Daniel Thomas, qui est concerné par ces problèmes d'impact de la pollution de l'air sur les maladies cardiovasculaires? Est-ce que c'est déjà ceux qui ont des fragilités, qui font de l'hypertension, qui ont du cholestérol, ou finalement tout un chacun est aussi concerné?
Alors, on peut considérer que tous les individus sont soumis à cette pollution, comportent un risque, mais c'est vrai qu'il faut relativiser, et cela en soulignant qu'il y a des individus qui sont plus fragiles par rapport à la pollution, et en particulier ceux qui, comme on vient de le dire, qui ont d'autres facteurs de risque, et qui donc, ce facteur va venir s'ajouter pour créer un risque plus important, ou les patients qui sont déjà avec des infections cardiovasculaires, qui ont déjà fait des accidents cardiovasculaires, et qui doivent être particulièrement attentif à essayer de se soumettre le moins possible à cette pollution. On peut parler également des enfants, des petits. Alors les enfants, les petits, c'est pas des risques de décès liés à la pollution, bien sûr, mais ce sont des risques d'infections respiratoires, otites, bronchites, voilà, qui sont plus fréquentes. De la même façon, d'ailleurs, qu'on voit chez ces enfants jeunes, plus de ces pathologies lorsque les parents sont fumeurs à domicile, et les pédiatres le connaissent bien. Donc c'est pareil, donc ces enfants sont également un petit peu soumis à cette pollution, mais bien dans un registre qui est moins grave certainement que chez les sujets plus âgés. Et puis une population particulièrement fragile, qui est la population la plus âgée, qui elle, effectivement, a des vaisseaux qui sont plus susceptibles de réagir par rapport à la pollution sur les trois facteurs que l'on a cités, c'est-à-dire la coagulation, la capacité des vaisseaux à se dilater et l'inflammation. Donc les accidents sont certainement plutôt majoritaire dans des populations plus fragiles, plus exposés à cette incidence-là.
Et souvent aussi, les populations défavorisées qui vivent dans des situations de précarité, vous avez cité le périphérique, c'est souvent plutôt elles qui habitent au bord des grands axes.
Ben, les populations les plus défavorisées sont souvent effectivement dans des situations en termes soit de logement, soit de localisation du logement, de pollution intérieure également des domiciles qui sont quand même dépendants souvent du revenu des gens. Donc les gens les plus défavorisés sont un peu plus, disons, exposés, sans qu'il faille exagérer cela, parce que je veux dire qu'il n'y a pas de... C'est très difficile à déterminer d'une façon extrêmement précise, mais on pense que... Et puis il y a des facteurs de risque parfois un petit peu plus importants dans ces populations. On a souvent un peu plus de fumeurs dans les classes socio-économiques les plus défavorisées. Donc on est avec un impact certainement un peu supérieur.
Une association, une accumulation finalement
de facteurs
qui agissent. Vous nous avez parlé tout à l'heure finalement des études épidémiologiques qui ont permis de dire cette impact de la pollution sur les maladies cardiovasculaires, donc de faire la différence entre en gros les villes et les campagnes. Est-ce qu'il y a des études justement plus précises qui ont été faites autour des grands axes pour savoir si ça augmente ces maladies? Vous avez cité le périph' tout à l'heure, on peut citer les grands axes d'autoroute.
Non, à ma connaissance, des études épidémiologiques très très focalisées comme ça, d'abord seront difficiles puisqu'il faut des grands nombres. Statistiquement, pour arriver à sortir cela, il faut des grands nombres, donc il faut comparer des populations avec des effectifs suffisamment importants. Donc c'est assez difficile de faire des études localisées ou même, disons, micro-régionales, parce que ça serait un peu prétentieux de vouloir faire cette démonstration. Par contre, on sait que ces niveaux de pollution sont plus importants dans ces secteurs, donc a priori l'impact va être plus important. Donc ça, on sait qu'il y a une corrélation quand même entre le niveau de la pollution. C'est bien pour ça d'ailleurs, quand il y a un pic de pollution, on alerte la population alors qu'on ne le fait pas au quotidien, parce que voilà, ça n'aurait pas tellement de sens.
On a retrouvé Sérigné qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Sérigné, rebonjour, on vous écoute.
Rebonjour.
On vous écoute, Sérigné.
Oui, concrètement, nous, au niveau du Sénégal, on a quand même fait l'impact sur la fonction mondiale des femmes et des enfants. On a travaillé sur la fonction pratique. Donc, on s'est rendu compte que les étaient plus habitées que les adultes et les enfants.
Alors Sérigné, je suis désolée, hein, mais vraiment on n'arrive pas à vous comprendre. Je ne sais pas ce qui se passe sur la ligne téléphonique. On doit avoir un problème technique de notre côté. On va vraiment essayer de vous rappeler, parce que je l'aurais dit, j'aimerais bien avoir votre témoignage, et autrement je le lirai. Professeur Thomas, quels sont les conseils en cas justement de pic de pollution?
Alors, les conseils en cas de pic de pollution, c'est la première chose, c'est d'éviter d'avoir une activité physique importante. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une activité physique importante, on sollicite notre système cardiovasculaire et qui est certainement dans les moins bonnes conditions pour réagir dans ces situations-là, puisque il y a un excès de monoxyde de carbone dans l'air en particulier, donc le transport d'oxygène vers les organes va être moins important. Et donc, aller faire du sport, par exemple, pendant ces pics de pollution, est plutôt déconseillé.
Alors, plutôt déconseillé d'aller courir. Est-ce que aller faire du sport en salle de gym, c'est aussi déconseillé dans ces cas-là?
Vous savez, dans les salles de gym, je veux dire, si elles sont correctement ventilées et aérées, elles vont subir également la pollution.
C'est ça, elles vont prendre l'air extérieur, donc c'est pas une meilleure idée.
C'est pas forcément à l'extérieur. Alors, on peut imaginer à ce moment-là d'aller un petit peu plus loin à la campagne, dans les forêts, et courir. Bon, en sachant que souvent, il faut pas se leurrer, je veux dire, quand il y a une pollution, en particulier là, quand il y a des pics de pollution, les campagnes sont aussi saturées, effectivement. En l'occurrence, là, le pic d'ozone,
il s'est pas arrêté au
périphérique et il est pas uniquement sur Paris. Oui. Et donc, je crois que c'est un peu un leurre.
Donc, limiter les activités
physiques. Se limiter effectivement aux activités physiques quotidiennes et choisir d'autres moments pour faire son activité physique.
Oui, ça n'empêche pas de dire que l'activité physique est bon. Alors, c'est bon pour la santé.
L'activité physique, bien entendu, est très bonne pour la prévention cardiovasculaire. C'est même un des éléments fondamentaux à tout point de vue. Après, il faut que les personnes qui sont les plus susceptibles d'être exposées, enfin d'être victimes de cette pollution, soient justement vigilantes par rapport à leur activité physique, évitent certainement de sortir dans une ville éminemment polluée. Pour les enfants, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les enfants, les tout petits en particulier, quand on transporte dans les poussettes, ils sont au ras du sol, là où la pollution souvent est la plus importante. C'est plus plus intéressant certainement si on sort avec eux, et pas question de ne pas sortir bien entendu, c'est de les porter un petit peu avec ce qu'on en a maintenant pour les porter sur le ventre, sur le dos.
Qu'ils soient un peu plus haut, voilà, mais pas au ras des pots d'échappement.
Plus haut et qu'ils soient pas au ras des pots d'échappement, et là où la pollution est certainement la plus intense compte tenu de la densité des particules.
Professeur Thomas, si vous voulez bien, on se retrouve dans 3 minutes juste après les informations, toujours pour parler de l'impact de cette pollution de l'air sur les maladies cardiovasculaires. Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, on parle de l'impact de la pollution atmosphérique sur les maladies cardiovasculaires avec le professeur Daniel Thomas, qui est cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre de la Fédération française de cardiologie. Et si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. J'ai donné, professeur Daniel Thomas, un chiffre en début d'émission qui disait que la pollution de l'air était responsable de 400 000 décès chaque année en Europe. On a le chiffre mondial, 1,3 million sur le monde. On a un auditeur qui nous a laissé un message sur Facebook et qui dit « Le sujet est intéressant mais obscur et restreint. Vous parlez seulement de l'Europe, mais l'Afrique connaît aussi ce problème, même si ce n'est pas encore aigu, encore qu'on pourrait lui dire que dans certaines villes. Quelles sont les pistes de solutions qui est proposée justement en termes de précautions ?» C'est ce qu'on était en train d'évoquer. On n'a pas de chiffre sur l'Afrique parce qu'il n'y a pas de données épidémiologiques, tout simplement.
Alors, on a moins de données épidémiologiques. Après, ce qu'on peut analyser en Afrique, certainement, c'est cette incidence cardiovasculaire dans les grandes métropoles industrialisées qui existent également en Afrique par rapport à d'autres régions. Sachant que dans les autres régions, il y a une intoxication en termes de pollution qui est se chauffer au bois, par exemple, ou brûler du bois, ou brûler effectivement des...
Et effectivement, alors, je voulais juste vous lire la question de Zébounissa, qui est au sud du Rwanda et qui dit, est-ce que la fumée de bois est nocive?
Oui, la fumée de bois est nocive. D'ailleurs, vous savez qu'il a été question finalement d'interdire les feux de cheminée au bois dans la région parisienne. Donc, c'est clairement parce que dans la pollution, effectivement, la combustion du bois est un apport important de polluants pour la pollution atmosphérique.
Donc effectivement, c'est simplement que sur le continent africain, on n'a pas de chiffres. On sait bien qu'il y a des villes très polluées. On essaye d'avoir le docteur Mouyambé, justement, au téléphone de Kinshasa. On a du mal à... On a vraiment des problèmes de ligne téléphonique aujourd'hui. Une ville comme Kinshasa est très polluée. Une ville comme Lagos, des villes comme Abidjan. Enfin, je ne peux pas toutes vous les citer, mais la pollution atmosphérique dans ces mégapoles, évidemment, existe. On était en train, juste avant les informations, de parler des conseils à donner en cas de pollution. Donc vous avez dit éviter l'activité physique, attention aux enfants, pas les poussettes où ils sont au niveau des pots d'échappement et les surélevés. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner?
Alors, individuellement également, chaque individu peut participer à limiter la pollution. En l'occurrence, dans ces pics de pollution, ne pas prendre sa voiture et prendre un transport en commun. Moi, ce matin, je suis venu en métro et en tramway parce que je me suis dit que c'est mieux que la voiture dans ces situations-là. Bon, j'exagère parce que je circule toujours en métro, donc j'ai pas fait spécifiquement là, mais c'est vrai que j'y pensais en venant, en me disant, mais c'est vrai, toutes ces voitures qui circulent là, ça
pour
participe
avoir
un peu.
Une petite attitude citoyenne.
En sachant que la pollution liée au véhicule n'est pas forcément celle qui est la plus importante dans la pollution. Il y a la pollution industrielle, bien sûr. Il y a ces chauffages au bois, ces émanations liées à la combustion de bois. Bien entendu, les véhicules y participent, et les diesels en particulier. On l'a suffisamment souligné, pour les particules les plus importantes et qui sont impliquées dans la pollution. Donc, la circulation automobile a été certainement une des causes d'évolution de la pollution dans nos régions par rapport au reste. Donc, on peut faire cela, et je pense que chaque citoyen peut, de son côté, et pas seulement pendant les pics de pollution, mais de façon quotidienne, essayer de moins polluer, et en l'occurrence justement d'utiliser les transports en commun plutôt que son véhicule.
Ça, ce sont des choses toutes simples à faire. On n'arrive vraiment plus à rejoindre Sérigny, la ligne téléphonique était trop mauvaise, mais j'ai envie vraiment de vous lire son message. Il dit, j'ai fait des recherches sur l'impact sur la santé de l'utilisation de combustibles domestiques. C'était un peu ce dont on parlait, hein, surtout ceux issus des ligneux, le bois, charbon de bois, résidus agricoles. Au Sénégal, la biomasse contribue pour 50% dans la consommation en énergie des ménages et les femmes et les enfants sont les personnes les plus exposées à la pollution issue de la combustion, justement, de ces biomasses utilisées à la cuisson des repas et le chauffage, car ils passent beaucoup plus de temps en contact avec ces polluants. On sait effectivement que ce sont les femmes et les enfants sur ces questions de pollution intérieure. J'ai remarqué pendant mes études que les femmes en milieu rural, très exposées à la pollution de l'air intérieur, souffraient également d'hypertension. J'aimerais connaître les avancées de la recherche en matière de pollution de l'air intérieur.
Alors, la pollution de l'air intérieur, en particulier lorsqu'il y a des foyers ouverts, comme c'est le cas certainement en Afrique, dans les maisons, pour faire la cuisine, préparer les repas, effectivement, ce sont des sources de pollution directes qui vont polluer l'intérieur des domiciles, et donc qui participent à la pollution, disons, immédiate, indépendamment de la pollution qui est liée à d'autres causes plus communautaires. Donc, dans chaque foyer, il faut se soucier d'aérer suffisamment et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une pollution. Mais c'est vrai que la pollution, de toute façon, même ici en Europe, la pollution intérieure à l'intérieur des maisons, lorsque les gens n'aèrent pas de façon systématique et quotidienne leur appartement, la pollution intérieure est relativement importante.
Et ça, il faut le dire, parce que quand on parle de pollution extérieure, les gens se disent, j'ouvre pas les fenêtres. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire.
Oui, alors, il faut le faire. Alors, pas forcément au moment des pics de pollution, mais c'est vrai que dans le quotidien, il faut aérer son appartement tous les jours de façon suffisamment importante pour renouveler l'air et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accumulation de pollution intérieure, ce qui est le cas lorsque l'on ne fait pas cette aération des appartements.
Et dû entre autres à des solvants qu'on utilise dans le ménage.
Dû aux différents produits qu'on utilise, liés aux matériaux qui constituent effectivement parfois nos fauteuils, nos canapés, etc. Bon, l'accumulation des poussières évidemment, qui finalement lorsque et même si on est soucieux de faire le ménage de façon assez soigneuse. Je veux dire qu'il faut aérer les appartements et en particulier lorsqu'il n'y a pas des pics de pollution. Quand il y a des pics de pollution, bon, se confiner à l'intérieur, disons, c'est pas une vraie solution non plus, mais c'est vrai que là, c'est pas le moment d'aérer. Bon, par contre, avant, quand on en a son sein, de bien aérer avant pour avoir un intérieur qui soit en lui-même déjà plus sain. Et puis, surtout, après les pics de pollution, une fois que la pollution est passée, de aérer de nouveau et de façon systématique et quotidienne son appartement.
C'est important de le rappeler. Quels sont les signes d'alerte? Alors, on comprend bien ce que vous nous avez dit. On n'a pas de lien direct sur un individu entre la pollution et une crise cardiaque. Encore que vous le dites aux urgences, on voit arriver plus de gens. Mais quels sont les signes qui doivent alerter?
Alors en fait, les signes qui sont sensibles et qui permettent aux individus de se rendre compte qu'ils sont dans une atmosphère plus polluée que d'habitude, sont plutôt des signes effectivement rhinopharyngés ou respiratoires. Et c'est pour ça d'ailleurs que le rapprochement avec la pathologie respiratoire est beaucoup plus connu dans la population. Il n'y a pas de signes cardiovasculaires spécifiques, sauf pour les sujets qui seraient très sensibles et qui pourraient avoir une exacerbation de leurs symptômes cardiovasculaires à ce moment-là. Et ça, certains peuvent le ressentir. Effectivement, s'ils sont déjà avec des signes d'insuffisance cardiaque ou ce sont déjà des patients coronariens avec des douleurs d'angine de poitrine, peut-être peuvent avoir ces jours-là une sensibilité particulière et des symptômes pour des efforts moindres ou pour une activité moindre. Mais c'est pas le cas pour l'ensemble de la population. Donc les symptômes vont être plutôt respiratoires, ce sont de gènes respiratoires, de picotements au niveau de la respiration, de picotements
des yeux,
etc. Donc ça, c'est ce que tout un chacun peut ressentir, mais qui ne veut pas dire, si on les ressent, qu'on va être victime de la pollution soi-même. Je veux dire que c'est un indice comme quoi il y a de la pollution.
On a Gorky qui nous appelle du Sénégal. Gorky, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, c'est Gorky, donc je vous appelle du Sénégal, dans un village situé à 90 km de Dakar, qui s'appelle Fondio. C'est dans ce village que, depuis les années 83, que les industries chimiques du Sénégal ont commencé à déverser des résidus d'acide phosphatique sur la plage du dit village. Aujourd'hui, notre principal problème dans ce village, c'est le déversement de ces déchets se fait d'une manière irraisonnable quand même, sans respecter les normes environnementales requises. Donc, malgré ces différentes conséquences que cela constitue pour la population du village, donc, les industries chimiques sont là à regarder. Ils sont aveugles, je peux dire, donc face à cette situation. De même que notre État, notre gouvernement et les organisations non gouvernementales qui s'occupent des problèmes environnementaux. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense que contre cette journée mondiale de l'environnement, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux autorités étatiques, aux organisations internationales des droits de l'homme, pour essayer de corriger, de nous aider à corriger cette injustice quand même.
Et je crois que vous avez du coup créé une association.
Oui, nous avons aujourd'hui une association donc au niveau du village, Association Paix et Solidarité, dont je suis chargé des relations extérieures. Nous essayons de combattre cela avec quelques organisations qui viennent nous soutenir, mais pour l'instant, c'est un début quand même. On n'a pas encore beaucoup de résultats quand même. Puisque je peux vous dire que les industries chimiques du Sénégal, ils sont protégés. Ils sont protégés par l'État du Sénégal, ils sont intouchables, donc... C'est difficile.
Ouais, c'est très difficile. En tout cas, Gorky, merci beaucoup pour ce témoignage. Et là, on en a reçu plusieurs sur Facebook qui m'étonnent d'ailleurs en termes de pollution. Quel est le lien justement en termes de sur la santé, l'impact de l'industrie chimique dans ces cas-là?
Alors là, on est dans un problème un petit peu différent de celui de la pollution en général, ce qui est la pollution industrielle, une pollution industrielle qui est liée à une mauvaise pratique. En l'occurrence, l'absence de traitement des déchets toxiques et leur élimination dans la nature, sauvagement. Et ça, c'est lié à un manque de réglementation, à un manque de contrôle, et qui relève des États. Donc là où vous êtes en difficulté, là au Sénégal, dans cette région, c'est que ces industries certainement ne respectent pas les normes internationales de traitement de ces déchets et s'en débarrassent d'une façon sauvage. Donc il faut bien sûr lutter contre cela, vous intervenir et au maximum au niveau des autorités sanitaires de votre pays et du gouvernement pour que les normes de traitement de ces déchets soient respectées et ne continue pas à polluer votre environnement.
Je voulais juste vous dire, on pourra pas avoir tout le monde au téléphone, mais on a John qui nous a laissé un message pour le Togo. Il dit, il y a dans un quartier justement une usine de phosphate qui pollue. Les gens autour se plaignent justement de problèmes de santé, problèmes ophtalmologiques, problèmes respiratoires. Même chose pour Jean-Jacques qui lui vit à Lubumbashi, parle d'une société minière. La population est aussi victime de pollution. Je suis impressionnée par le nombre de témoignages qu'on a pu recevoir là-dessus. On a au téléphone le professeur Mbuyamba. Professeur Mbuyamba, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Vous êtes cardiologue au CHU de Kinshasa en République démocratique du Congo, président de la Ligue congolaise contre l'hypertension. Peut-être que la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est l'ampleur de la pollution à Kinshasa?
Je ne peux pas dire exactement quelle est l'ampleur de ce problème parce que nous n'avons pas des études disponibles et qui évaluent la question.
Oui, c'est ça, on n'évalue pas la pollution de l'air.
Et il faut dire que la grande promiscuité qui est observée dans les rues, dans les avenues, dans les marchés, à cause d'une démographie urbaine qui est croissante à la suite d'une forte natalité d'une part, de l'exode rural non contrôlé, avec une absence de politique d'urbanisation de l'habitat. Et à côté de tout cela, toute une pollution acoustique qui est occasionnée par bruit de toutes sortes que l'on entend tout le temps dans la ville. Les terrasses, les bistrots, les bars, une densité croissante des églises, des deuils, des funérailles organisées le long des avenues. Tout cela perturbe la tranquillité des populations.
Est-ce que vous commencez... Kinshasa, même s'il n'y a pas d'études, effectivement, est une ville polluée, vous le dites, hein, ne serait-ce que par le nombre d'habitants qui y vivent. Est-ce que vous commencez à voir effectivement un impact sur la santé, et entre autres avec une connaissance sur ces questions de maladies cardiovasculaires?
Il faut dire que lorsqu'on examine une période de 25 ans, par exemple, allant de 1984 à 2005, deux enquêtes organisées dans une même communauté de la ville de Kinshasa, dans un même quartier, ont montré une augmentation de maladies cardiovasculaires de plus de 25%.
Et certainement pas que dû. Alors pour le coup, pas que dû. Je vous interromps, excusez-moi, professeur Mbouyamba. Alors pas que dû à la pollution, aussi au changement de mode de vie, d'alimentation et la question du manque d'activité physique. Hein.
Exact. Mmh. Et tout cela intervient là-dedans et compte tenu que l'activité physique, l'obésité
ouais, est un grand fléau.
Chez les enfants et chez la femme, c'est encore.
J'aurais juste une dernière question à vous poser, professeur Mbouyamba, parce que je suis désolée, pareil, la ligne téléphonique est très mauvaise, on a vraiment des gros problèmes aujourd'hui. Est-ce que la population a conscience de ce problème de pollution de l'air et de son impact sur la santé?
Est-ce que la population a conscience? Je pense bien, parce que la population se plaint et s'organise elle-même. Dans les quartiers, par exemple, la collecte des déchets ménagers qui commençait à s'amonceler, à former des communes, n'était pas embellissante pour la ville, est prise en charge par les organisations des quartiers, des quartiers elles-mêmes, compte tenu du fait que les services de voirie publique ne sont pas efficaces.
Merci beaucoup en tout cas, hein, professeur Mbouyamba. Je rappelle que vous êtes cardiologue au CHU, de Kinshasa en République démocratique du Congo et président de la Ligue congolaise contre l'hypertension.
Priorité santé sur RFI.
Et on a au téléphone Valérie Murat qui a déposé plainte contre X pour homicide involontaire sur la personne de son père, qui est un vigneron décédé en 2012 d'un cancer du poumon, reconnu d'ailleurs en lien avec une exposition chronique à l'arsénite de sodium dans le traitement utilisé sur ses vignes pour lutter justement contre des maladies. Valérie Murat, bonjour.
Bonjour.
D'abord, que connaît-on des liens entre l'utilisation de pesticides et le cancer du poumon?
Eh bien, en fait, la bibliographie, elle commence juste à s'écrire. Il y a eu une première méta-étude qui a été réalisée par l'Inserm en 2013. Et la bibliographie sur les liens entre les pesticides et des maladies comme les cancers ou les lymphomes ou la maladie Parkinson est en train d'émerger. Parce que ce sont des cancers qui mettent des années à se former, en fait, et vu que l'utilisation des pesticides date, elle a eu lieu depuis les 60 dernières années, on commence simplement à voir les premiers cas émerger maintenant.
Et la grande bataille que vous avez menée, c'était évidemment que cette maladie soit reconnue comme maladie professionnelle.
Non, mon père avait cette reconnaissance de maladie professionnelle. Puisque l'arsenic du sodium était inscrite, en fait, en 1955, la MSA a créé un tableau des pathologies professionnelles des dérivés inorganiques de l'arsenic et l'a inscrite, en fait, comme produit dangereux, cancérogène. Donc, mon père avait cette reconnaissance de maladie professionnelle.
Mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Comment ?
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Ah non, ça n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement.
C'est compliqué, cette reconnaissance professionnelle, de maladie professionnelle.
Aujourd'hui encore, par exemple, nous attendons au sein de l'association Phytovictime la signature d'un décret. Je m'adresse d'ailleurs à notre ministre de l'Agriculture. Il ne nous manque plus que sa signature pour inscrire aussi les lymphomes non Hodgkiniens sur le tableau 10 de la MSA pour que les personnes qui souffrent de cette pathologie puissent avoir une ouverture de droit.
Et vous souhaitez aujourd'hui...
On l'a fait pour la maladie de Parkinson. C'est inscrit depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, au tableau 10. Et le problème, c'est que toutes ces maladies qui émergent doivent aussi être inscrites au tableau 10 de la MSA pour pouvoir donner une ouverture de droit aux personnes qui en sont victimes.
Et d'ailleurs, vous souhaitez que soit mise en place une étude épidémiologique pour justement connaître l'ampleur du phénomène.
Moi, j'aimerais bien effectivement qu'en France, on prenne le problème par l'autre bout, c'est-à-dire s'attaquer aux causes du cancer. C'est bien de faire de la prévention, hein, c'est une bonne chose, mais il faudrait arriver plutôt à connaître les causes des cancers pour faire une prévention beaucoup plus efficace et prendre le problème dans le bon sens, me semble-t-il.
Juste une dernière question. Vous organisez le samedi 13 juin, donc dans 8 jours, une soirée débat sur les liens entre pesticides et santé avec un sous-titre « Combat des femmes ». Les femmes, justement, sont-elles plus touchées par ces questions-là ?
Alors c'est justement un sujet sur lequel s'intéresse peu de chercheurs. Je tiens à saluer au passage le travail de Nathalie Jaffe, par exemple, qui est une historienne à l'INRA, qui travaille à Ivry et qui s'est penchée effectivement sur le problème parce que les femmes sont aussi touchées par les pesticides, puisqu'il y a aussi des femmes qui travaillent dans l'agriculture. Et bien souvent, c'est un profil sur lequel on oublie de se pencher. Donc, c'est en train d'avancer, la bibliographie s'écrit, et je tiens, puisque j'en ai l'occasion, à remercier le travail de Nathalie Jaffe, qui soulève ce point très souvent dans les conférences auxquelles elle participe, parce que c'est un profil sur lequel on ne s'intéresse pas du tout.
Merci beaucoup.
Et c'est vrai qu'après, souvent, ce sont les femmes, par contre, qui prennent en main les dossiers, qui font les papiers et qui portent les affaires, bien souvent. Et on en parlera justement samedi prochain lors de notre Assemblée Générale à Saint-Maine-de-Castillon.
Très bien. Merci beaucoup, Valérie Murat. Et on mettra toutes les coordonnées exactement sur votre association et votre action sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Juste, professeur Daniel Thomas, une réaction sur la question de l'importance des études épidémiologiques pour mieux comprendre cette question de l'impact de l'environnement, de la pollution sur la santé.
Alors, ces études épidémiologiques sont particulièrement importantes, d'une part pour mettre en évidence le rapport entre la pollution et les maladies cardiovasculaires, et elles doivent être poursuivies pour essayer de voir justement quel est le bénéfice des actions qu'on pourra entreprendre. Et je pense qu'il faut souligner que la Fédération française de cardiologie plaide fortement au niveau du gouvernement et à travers notre plan cœur que l'on veut voir émerger dans les années qui viennent, c'est de faire en sorte qu'il y ait des mesures communautaires vraiment importantes dans ce sens, tant sur la prévention cardiovasculaire globalement et sur ce point particulier de la pollution sur lequel il y a beaucoup de choses à faire et qui relève bien sûr de décisions gouvernementales le plus souvent.
On parlait des femmes. Pendant longtemps, on a pensé que les femmes avaient moins de problèmes cardiovasculaires que les hommes et on s'aperçoit finalement que ce n'est pas le cas. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, à cause du tabac, mais pas que.
Pas que, effectivement. C'est-à-dire que la notion que les femmes sont protégées sur le plan cardiovasculaire était quelque chose qui était couramment dit et constaté, puisque l'âge auquel les femmes vont faire les accidents cardiovasculaires était à peu près décalé de 10 ans par rapport aux hommes. C'est vrai qu'on voit se réduire ce décalage, et en particulier à cause du tabagisme des femmes qui a émergé depuis une trentaine d'années, mais également du fait qu'elles ont tendance à vivre comme les hommes et à faire effectivement un certain nombre de se mettre dans des situations de risque cardiovasculaire comme les hommes.
Un mot de conclusion, on arrive à la fin de cette émission avant de terminer en parlant de l'affaire Vincent Lambert.
Alors en conclusion sur la pollution, je pense que c'était bien de souligner cet impact cardiovasculaire parce qu'il est relativement méconnu. Je pense que si vous voulez avoir d'autres informations sur ce sujet, vous pouvez aller sur le site de la Fédération française de cardiologie, fedecardio.org, dans lequel vous trouverez effectivement dans ma Fédé Cardio, une rubrique pollution qui vous permettra d'apprendre un petit peu des choses supplémentaires
qu'on n'aurait
pas pu dire, de mieux comprendre.
Un papier et puis, qui est très bien fait avec quelques conseils pratiques.
Voilà,
aussi.
Et vous en profiterez également pour regarder les autres facteurs de risque. Et j'insiste encore, la pollution, c'est pas tout dans le domaine cardiovasculaire. Il y a les autres facteurs de risque qu'il faut prendre en compte.
C'est ça, hein. Et arrêter de fumer, bouger, manger moins gras, moins sucré. C'est ça,
voilà,
en gros,
voilà,
je vais à peu près bien résumer. Merci beaucoup, professeur Daniel Thomas. Je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, membre de la Fédération française de cardiologie. Vous reviendrez nous parler longuement aussi de l'impact du tabac dans les pays du Sud. On fera une émission à la fin de l'été là-dessus. Merci vraiment beaucoup et on va terminer effectivement en parlant de l'affaire Lambert.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, je vous propose donc de parler de cette affaire Lambert. La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre sa décision sur l'arrêt controversé des soins qui maintient en vie Vincent Lambert, qui était tétraplégique depuis un accident de la route en 2008. Il souffre de lésions cérébrales irréversibles. Le Conseil d'État a autorisé en juin 2014 l'arrêt de l'alimentation de Vincent Lambert, jugeant finalement cette obstination de soins déraisonnable, vu son état jugé irréversible. Les parents de Vincent Lambert ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient de rendre un arrêt qui valide justement l'arrêt du Conseil d'État autorisant l'arrêt des soins dont bénéficie Vincent Lambert. Donc elle a débouté les parents qui dénonçaient dans cette mort programmée une violation du droit à la vie et un traitement inhumain. On a au téléphone Marie-Geneviève Lambert. Bonjour, merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé.
Bonjour.
Quelle est votre réaction à cette décision?
Écoutez, elle était prévisible. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'arguments pour contester le verdict du Conseil d'État.
Donc vous êtes satisfait de cette décision. Qu'est-ce que vous attendez maintenant?
Maintenant, on aimerait que qu'il n'y ait pas trop de pertes de temps et d'énergie dans une division sans doute prévisible par les parents de Vincent, donc mon père et ma belle-mère, ainsi que de leurs enfants. Qui vont sans doute jouer les prolongations, alors que rien dans cette histoire ne montre quelque chose d'anormal dans la décision qui a été prise par l'hôpital, hormis dans la forme du premier arrêt des soins. Mais c'était seulement un problème de forme. C'est-à-dire que Vincent s'est dégradé, malgré les arguments consistant à dire qu'il a récupéré un certain nombre de réflexes comme celui de la déglutition. Ça n'est pas vrai. Il n'a pas une confiance. Il n'a pas de relation avec son environnement. Il faut que ces choses soient dites.
Merci.
Et il faut maintenant appliquer la règle de droit. C'est justifié et qui est humaine. Voilà, ce n'est pas une décision inhumaine. Ça respecte les droits et les volontés de notre frère.
Merci beaucoup Marie-Geneviève Lambert d'être intervenue. Je rappelle donc que la Cour européenne des droits de l'homme a validé l'arrêt du Conseil d'État français autorisant l'arrêt des soins dont bénéficie Vincent Lambert. Lundi, nous parlerons du bonheur, sujet qui concerne aussi finalement les questions de santé. Est-ce qu'un psy a des bons conseils à nous donner dans ce domaine? Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos remarques, de vos questions, de vos témoignages, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 75, soit en nous laissant des messages sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous retrouve bien sûr lundi en direct.